This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour Okaya.
Bonjour Ras.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Et vous le savez, ici on parle de tout et de tout le monde, des Arabes, des Asiatiques, des Noirs et même des Blancs sans aucun complexe.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un film dont vous avez certainement entendu parler sur vos réseaux. Le 15 août dernier, aux États-Unis, est sortie la comédie romantique Crazy Rich Asians, au casting 100% asiatique, qui comprend Michelle Yeoh, qu'on ne présente plus. Elle est une star du cinéma hongkongais depuis les années 90. C'est aussi hollywoodien. Elle a été James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais, ou encore dans Tigre et Dragon, ou Les mémoires d'une geisha. Il y a aussi la fabuleuse Constance Wu qui joue la mère dans la série de ABC Fresh Off the Boat et qui est adaptée largement du livre de Eddie Huang. Le film est signé par le réalisateur Asian American John Chu qui a fait G.I. Joe et Sexy Dance et adapté du roman éponyme qui est un best-seller international du romancier Kevin Kwan.
So your family is rich?
We're comfortable.
That is exactly what a super rich person would say.
I want the money.
1.2 million.
The Nick you're dating is Nick Young?
Yeah, you guys know them or something?
Hells yeah. They're just the biggest developers in all of Singapore.
That's what I...
Damn, Rachel. It's like the Asian Bachelor.
These people aren't just rich. They're crazy rich.
And you really should have told me that you're like the Prince William of Asia.
That's ridiculous. Much more of a Harry.
On peut d'ores et déjà dire que c'est un phénomène de société. Le film Crazy Rich Asians a initié un véritable mouvement sur les réseaux sociaux. On considère, en tout cas certains considèrent que c'est le Black Panther asiatique en termes symboliques. Des familles entières se sont déplacées dans les salles de cinéma, des groupes d'amis ont fait des selfies devant l'affiche du film, beaucoup de fierté s'est affichée, de l'encre a coulé et aussi des billets verts dans les caisses du box-office. C'est une des meilleures croissances de films de la Warner en 2018.
Alors aujourd'hui dans Kif ta race, on va parler du succès de Crazy Rich Asians aux États-Unis, ce qu'il signifie là-bas et ce qu'on en attend ici. Et pour nous aider dans cette réflexion, nous avons invité Amy Hong. Amy, tu es consultante spécialisée en politique migratoire et en droits de l'homme, analyse politique pour des organisations internationales et des ONG. Bonjour Amy.
Bonjour Grace, bonjour Rokaya.
Alors Amy, tu es née aux États-Unis, tu as grandi sur la côte ouest, tu vis en France depuis 10 ans, tu as vu avant nous le film Crazy Rich Asians, le jour de sa sortie aux États-Unis, et tu as écrit une tribune pour le site Click TV, qui est une des raisons pour laquelle on t'invite, puisque la tribune a été remarquée. Le nom de ta tribune, c'est « J'ai vu le film Crazy Rich Asians » et je me demande s'il va changer la façon dont on me perçoit.
Et comme on est dans Kif ta race, on demande aux gens qu'on invite de se définir se situer sur le plan racial. Moi, je suis asiatique, Rokaya est noire. Est-ce que toi, Amy, comment tu te définis et...
Oui, aujourd'hui, moi, je dirais que une identité que je réclame beaucoup aujourd'hui, je dis que je suis a person of color, une personne racisée, je dis que je suis Asian American, je dis que je suis Vietnamese American.
Asiatique américaine, Vietnamienne américaine.
Ouais, exactement. Mais je dois dire que c'est pas une identité que je réclame depuis très longtemps. En fait, parce que moi, j'ai eu ma prise de conscience raciale assez récemment, je dirais. Et c'était surtout en 2016. En fait, j'ai quitté mon travail. Je travaille pour une institution internationale économique à Paris. J'ai travaillé là-bas pendant presque 2 ans et demi. À un moment donné, vu que je travaillais sur les politiques migratoires, vu que je voyageais dans le monde, je faisais des missions pour donner des recommandations politiques à d'autres gouvernements sur comment gouverner l'immigration, je trouvais le fait que je connaisse très peu l'histoire migratoire de ma propre famille, je trouvais ça hyper bizarre. Et à un moment donné, quand j'avais, je ne sais pas, 28, 29 ans, donc il y a quelques années, j'ai dû me confronter C'est, ouais. J'ai dû me confronter au fait que ce manque de connaissances sur ma propre histoire, sur l'histoire migratoire de ma famille, j'ai dû me confronter au fait que ça ait un lien avec l'honte, la honte en fait, que j'avais de mes origines quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, pendant très longtemps. En fait, l'histoire de ma famille m'intéressait pas autant parce que je crois que pendant mon enfance, pendant mon adolescence et pendant très longtemps, pendant mes vingtaines aussi, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de m'intégrer à la société dominante et donc j'avais d'autres priorités en fait. Et à un moment donné dans ma vie, c'était notamment quand il y avait des membres de ma famille comme des oncles qui ont commencé à décéder. Et là, j'ai réalisé que je connais ces personnes, j'ai grandi avec elles, mais en fait, je les connais très peu. Je sais qu'un des oncles qui avait décédé, par exemple, il avait été mis dans un camp de rééducation après la suite à la guerre du Vietnam. Donc, il n'est pas parti avec la plupart de ma famille juste après la guerre. Il a dû rester plusieurs années après la guerre au Vietnam dans un camp. Et quand il est mort, je me suis dit, ces histoires, elles sont, on peut plus les récupérer, en fait. Et donc, fin 2015, je quitte mon travail à l'OCDE. En 2016, je pars au Vietnam. Donc, c'était le pays d'origine de mes parents. Et c'était la première fois que je suis allée. C'était cette année-là, c'était en 2016. J'ai passé 6 mois là-bas et le but du 6 mois, c'était vraiment de m'améliorer mon vietnamien parce que avant d'y aller, je parlais comme une gamine. Je crois que t'as parlé de ça, Grace, avec dans un des derniers épisodes. Je parlais vraiment comme une gamine. Mon vocabulaire était très mauvais, était très limité. Et donc, pendant 6 mois, j'ai vraiment travaillé mon vietnamien. Donc, ça m'a permis une réconciliation avec la langue vietnamienne. Ça a tout à fait transformé la relation que j'avais avec mes parents. Quelque chose qui était vraiment inattendu. Mais vraiment, ça a changé toutes les dynamiques de pouvoir entre mes parents et moi. Et le fait d'améliorer mon vietnamien. Parce que je ne sais pas si vous voulez que je parle de ça. Mais en fait, j'ai réalisé quand j'étais au Vietnam que c'était la première fois que j'ai dit à mes parents « Ok, moi, je veux vraiment améliorer mon vietnamien. Donc, corrigez-moi quand j'ai fait des fautes. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé que dans toute mon enfance, c'était moi qui corrigeais mes parents, en fait. En parce anglais. Que eux, ils étaient des immigrés qui galéraient pour parler l'anglais, pour le comprendre, pour le parler. Et moi, j'étais toujours celle qui traduisait des documents, qui parlait avec des personnes si c'était trop compliqué, qui expliquait des choses, qui interprétait, qui traduisait. Et forcément, et c'était seulement au Vietnam où j'ai eu cette réalisation, ça a créé pour moi un certain regard envers mes parents. En fait, cette dynamique, ça les infantilisait pour moi. Et quand j'étais au Vietnam, et ils ont, pour la première fois, ils ont commencé à me corriger quand je parlais des Vietnamiens. C'était incroyable pour moi. Genre, oh, mais ça doit être comme ça, en fait.
Est-ce que dans le regard des gens, de tes parents, ou quand tu as grandi aux États-Unis, est-ce que tu as toujours été vietnamienne dans le regard des gens
aux États-Unis, ben moi, je viens de San José. Et à San José, il y a une grosse diaspora vietnamienne. La plupart des personnes sont venues après la guerre. Et donc, moi, je suis née dans les années 86. Donc, quand je suis née, il y avait déjà une grosse communauté. Et par exemple, à San José, j'étais dans un quartier. Par exemple, à mon lycée, il y avait 5000 personnes. Je crois que le pourcentage de blancs, c'était 8%.
Ah. Et c'était quoi la composition, en fait?
Ouais, non, c'était surtout des Asiatiques. Très peu de Noirs à San José, où j'étais. Beaucoup d'Asiatiques et beaucoup de Latino-Latinex, notamment des Mexicains, parce que j'étais en Californie. Et donc, c'est marrant que tu me demandes ça, parce que bien sûr que je savais que j'étais Asiatique. Bien sûr que quand j'étais avec mes amis blancs, je savais que j'étais asiatique, mais ce n'était pas quelque chose que je devais verbaliser parce qu'on était très nombreux. Et je crois que ma première... et je sais qu'en parlant avec beaucoup d'asiatiques en France... j'entends tout le temps, mais moi, quand j'étais petite, j'ai eu la remarque, ching chong, ni hao, on faisait le geste des yeux bridés. Ouais. Et moi, j'ai jamais eu ça en tant qu'enfant. Et la première fois où ça m'est arrivé, c'était quand, à 20 ans, je suis partie en Espagne. J'ai fait un semestre à l'étranger. Et c'était vraiment à Madrid où tout le monde, quand je marchais dans la rue, c'était... C'était ni hao, c'était China, c'était est-ce que tu vends des sandwichs? Je m'en souviens que...
C'est précis les sandwichs quand même, ça vient de...
Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui vendaient des sandwichs.
D'accord.
Et je m'en souviens, j'avais ma colocataire de la fac, elle était à Londres ce semestre-là, elle est venue me rendre visite pendant un week-end. J'ai l'impression que deux femmes asiatiques, c'était trop pour cette ville. Genre, les gens nous suivaient, les gens voulaient prendre des photos avec nous, c'était trop bizarre. Et ce qui était très bizarre aussi, c'était quand je pense à ça, je pense à comment j'ai fait pour me distinguer des vrais Chinois.
Donc, c'est-à-dire les Chinois qui viennent de Chine, qui sont immigrés.
Exactement.
Quoi. D'accord.
Vous comprenez ce
oui.
que
toi,
je veux
t'es
dire.
Américaine en fait d'origine asiatique.
Parce que je sais que dans le regard des Espagnols, en tant qu'américaine, ça me donne quelque chose.
Ça te valorise
c'est
en fait.
Oui, ça me valorise. Mmh. Tu vois, c'est un capital social que j'ai parce que je parle anglais, je viens des États-Unis, et donc parfois
j'ai fait des l'annule.
Ouais, et je faisais des serveurs pour me distinguer de vrais Chinois. Donc je parlais l'anglais fort, je faisais attention à ma façon de m'habiller et ça me rend triste et c'était seulement ces dernières années où j'ai commencé à lire des terroristes aux États-Unis. Je sais pas si j'ai tout à fait où. Ouais, ouais. Vas-y.
Non, c'est très intéressant ce que tu dis parce que nous en France on nous parle souvent du modèle américain comme étant un modèle multiculturel ouais. où les gens se mélangent pas et que du coup où on a beaucoup plus de facilité à se définir par on appelle ça aux États-Unis les hyphenated identities, donc il y a les Asian American, il y a les Black Americans, enfin il y a tout ce qui, il y a un petit tiret entre les noms, c'est pour ça qu'on dit hyphenated, parce qu'il y a un tiret. Alors que nous en France, on a beaucoup plus de mal à se définir en tant que personne d'origine étrangère, immigrée, enfin que nos parents sont venus d'ailleurs. Et du coup, alors que, enfin, moi je trouve ça intéressant parce que soit c'est en France que qu'on t'a renvoyé ta différence
en Europe,
en Europe, alors que dans ton lycée aux États-Unis, tu faisais partie de la majorité finalement. Tu faisais partie de la majorité des tu ressemblais à la majorité de ton lycée.
Oui, mais même aux États-Unis, en Californie où j'étais, même si dans mon lycée, je faisais partie de la majorité, il y avait quand même quand on allumait la télévision, en fait. Moi, j'étais obsédée par la télé. J'adorais tellement de séries que je regardais tous les soirs. J'essaie de penser à quelques séries. Dawson's Creek, Seventh Heaven, Felicity. Et c'était que des blancs. Et en fait, bien sûr que ça fait partie de... Bien sûr que ça avait fait un impact sur comment je me regardais. Et en fait, je parle un peu de ça dans la tribune. Je parle de comment... Et c'est un point qui a été soulevé par Kelly Marie Tran aussi, dans sa tribune dans du New York Times, que j'ai adoré parce que ça a beaucoup résonné avec moi.
Donc justement, la tribune que tu cites, dans ce texte, tu dis, je te cite, hein, « Après 6 ans à Paris, un comportement chez les Français qui me fascine toujours, et lorsqu'ils froncent les sourcils en me regardant, avec une certaine méfiance quand je dis que je suis américaine, née et élevée en Californie. Lorsque les Américains racisés, surtout les non-noirs, veulent dire qu'ils sont uniquement américains, ils risquent d'être accueillis avec confusion, voire avec même dérision. » C'est un peu, t'es un peu victime de ce qu'on peut vivre, nous, en tant que minorité en France, où nous-mêmes, on fait face à des doutes quand on dit qu'on est français. Toi, finalement, le fait que tu sois à la fois asiatique et américaine, ça sème une certaine confusion quand tu te présentes à des Français comme étant uniquement américaine. C'est quelque chose que tu as ressenti fortement en France?
Oui, et donc là, je vous ai déjà parlé de ce qui m'est arrivé en Espagne quand j'avais 20 ans. Et quand je suis arrivée en France pour la première fois, quand j'ai fait mon premier séjour en France, j'avais 23 ans. Et j'ai eu tout de suite des expériences expériences qui m'ont tellement marquée. Je m'en souviens, je vivais avec mon partenaire, mon copain de cette époque-là. On vivait dans un studio dans le 18e. Et en fait, il y a eu un problème dans le bâtiment et dans sa propriétaire est venue me voir un jour pour me parler de quelque chose qui s'était passé. Et dès qu'elle m'a vue, il y avait une méfiance complète. Et je ressentais de manière très forte son mépris tout de suite. Et là, elle me demande... j'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé. Et là, elle me demande... Et donc, vous êtes japonaise, chinoise, coréenne.
Ce qui était très important pour effectivement faire ce qu'elle avait à faire.
J'ai dit non. En fait, je viens de Californie, je suis américaine. Et là, elle m'a dit, non, mais vous ne pouvez pas être américaine. Ne cachez pas vos racines. Et c'était... Non, c'était hyper... c'était choquant, mais c'était hyper intéressant, en fait. Cette idée de... En fait, non, les seuls Américains... Parce que derrière ça, il y a beaucoup, en fait. Derrière ça, il y a l'idée que les seuls Américains légitimes sont les Blancs. Et quelque part...
Et les Noirs aussi. Et les Noirs.
Ouais, les Noirs. Tout à fait. Ouais. Et quand on voit les films américains, les séries américaines qui sont exportées, vu notre empire culturel qu'on a aux États-Unis, quelque part, ça a du sens. Mais et c'est quelque chose que je cite dans mon article, c'est incroyable parce que ça veut dire que si on prend en compte le fait que bientôt, les personnes racisées... vont devenir la majorité aux États-Unis. Je crois que c'est...
Entre 2043 et 2050.
Ouais, exactement. Ça veut dire que jusqu'ici, pour la plupart des personnes en dehors des États-Unis, nous, on ne compte pas autant. On n'est pas très
légitime.
Alors
que c'est une des minorités dont le nombre augmente le plus rapidement, en fait, les ethniques américains.
Exactement.
Et c'est justement pour ça que, dans le contexte de Crazy Rich Asians, c'était très important, puisque... C'est quand même l'une des premières, puisque ça fait 25 ans qu'on a eu The Joy Luck Club de Wayne Wong et tiré du livre de Amy Tan, qui s'appelle en France Le Club de la Chance. Et donc Crazy Rich Asians, ça fait 25 ans qu'on n'a pas eu une comédie romantique classique, inspirée des contes de fées. Donc c'est l'histoire de Cendrillon qui rencontre sa belle famille, qui est riche à mourir. Et aussi 5 ans après Fresh Off the Boat, qui a quand même révolutionné la télé, parce que c'est une série où tout le casting est asiatique-américain sur ABC, donc une grande chaîne nationale. Donc le magazine Time, qui a mis Constance Wu, l'actrice principale de Crazy Rich Asians en une, a déclaré que Crazy Rich Asians va changer Hollywood. Parce que pour une fois, dans ce film, les Asiatiques ne sont pas des clichés. Donc c'est la première fois qu'on n'a pas les clichés de la femme dragon, la fille soumise, le geek, ou l'ingénieur informatique. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes aux États-Unis. Donc, ça s'est retrouvé sur les réseaux parce que les gens étaient vraiment enthousiastes à l'idée d'aller au cinéma pour soutenir ce programme. Par contre, il y a eu énormément de critiques aussi. Donc, on va aussi parler des critiques de Crazy Rich Asians. Parce que, donc, en France notamment, puisque il y a eu. On s'est dit, on parle des Asiatiques, mais ils sont riches. Toi, Amy, en tant qu'Américaine, qu'est-ce que tu penses du coup de ce film ? Qu'est-ce qui change pour toi ?
Moi, c'est marrant parce que le jour où le film est sorti aux États-Unis, j'étais en Californie du Sud avec ma mère et j'avais une cousine qui m'a invitée à voir le film. Et moi, j'avais pensé le voir, mais j'étais pas trop excitée, genre « Ah, il faut que je le voir le jour où ça sort ». C'était pas ça, parce que j'avais vu la bande-annonce et je dois dire que ça m'est pas... j'étais pas hyper tentée par les films quand j'ai vu la bande-annonce. Parce que j'ai vu, comme tu as dit, des Asiatiques qui étaient riches à mourir, ça m'a dérangée un peu. Mais j'ai décidé d'y aller avec ma cousine et ses amis. Et en fait, l'émotion que j'ai ressentie pendant le film, pour moi, c'était assez surprenante, en fait. Et moi, j'ai vu pas mal d'entretiens qu'on a fait avec Constance Wu et Awkwafina, où les deux disent, on voit ça, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois, les gens, des gens asiatiques, ils vont voir le film, notamment des Asian Americans vont voir le film, et tout le monde sera dans la salle en train de pleurer, en fait, parce que le fait de te voir représenter, how do you say it, on the big screen?
Oui, sur le grand écran.
Sur le grand écran, en fait, c'est quelque
trop
chose.
Trop fort en anglais.
Ouais, c'est quelque chose qui m'a ému, qui a un impact sur moi, qui était plus, ouais, que c'était plus fort que j'avais attendu, en fait.
Et, ouais, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus frappant quand j'ai regardé les réseaux sociaux, c'est que les gens étaient en communion avec le film et entre eux. Il y a vraiment eu. C'est ça qui m'a donné envie, moi, plus que d'aller voir le film, parce que bon, c'est une comédie romantique, donc si t'aimes pas les comédies romantiques, moi j'adore les comédies romantiques, bon, j'irai le
moi
voir,
aussi.
Tu vois.
Même si je ne suis pas asiatique, j'irai le voir.
Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les gens étaient vraiment fiers d'y aller. C'est-à-dire qu'ils emmènent leurs parents, ils sont en famille ou entre amis, mais en tout cas, il y a un effet de groupe, de dire voilà, on se voit à l'écran, et même si le film n'est pas. Bon, c'est pas le film préféré, ton film préféré ou ton genre de film préféré, tu vas quand même faire l'effort parce que c'est un simple.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bol.
Ouais, et j'ai adoré. En fait, je l'ai vu et c'était hyper enjoyable. En fait, c'était tout le film était hyper. Tu vois, j'étais jamais pas intéressée par ce qui. Ouais, divertissant. Ouais. C'était très divertissant comme un film. C'était 2 heures d'escapisme total. On se trouvait parmi des gens qui étaient, comme tu as dit, riches à mourir. Et, tu vois, c'est quelque chose qui me dégoûtait, mais qui me fascinait en même temps quand je regardais. Et non, j'ai adoré dans ce sens-là. Et c'est marrant parce que tu as dit que... quand tu as dit qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis, beaucoup de personnes asiatiques aux États-Unis qui sont allées voir le film avec leurs parents... La deuxième fois, ça, c'était aussi inattendu. Moi, j'étais... Non, après... Moi, j'ai vu le film une première fois. Je n'avais pas du tout l'intention de le voir une deuxième fois. Mais quelques semaines après, quand j'étais en Californie du Nord avec mon père, avec sa partenaire et ma mère et mon beau-père, ils étaient là aussi avec mes neveux et ma sœur. On a décidé d'aller voir le film ensemble. C'était la première fois qu'on a été au cinéma ensemble. Je crois que ça avait 15 ans, 20 ans. En plus, mes parents sont divorcés, ils sont séparés. Donc, il y avait mon beau-père, il restait à la maison, mais il y avait la copine de mon père. Et ce qui m'a touchée le plus, pour revenir au sujet de la langue, en fait, mon père. Alors, mon père, il est arrivé aux États-Unis quand il avait 24 ans. Il est devenu ingénieur. C'est un des hommes les plus brillants que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Pourtant, il a très peu d'éducation formelle. Et en plus, il parle toujours avec un accent. Et je sais, dès qu'il ouvre sa bouche, j'ai vu pendant toute ma vie le mépris que les gens avait automatiquement envers lui quand il ouvrait la bouche, en fait. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que je crois que pour beaucoup de monde à l'extérieur, c'est un homme qui parle toujours avec un accent. Et mon père, c'est un homme qui parle 5 langues, qui parle 3 dialectes de chinois. Il est brillant, en fait. Dans chaque mot en vietnamien qu'on peut prononcer, il sera capable de te dire l'étymologie exacte, comment c'est. Et non, 3 dialectes de chinois, le vietnamien, vu qu'il est né au Vietnam, il a grandi au Vietnam. Mais pourtant, pour le reste du monde, mon père reste un homme, un immigré chinois, vietnamien, qui n'a jamais... appris à parler de l'anglais parfaitement. Alors qu'il est, par rapport à la majorité des Américains, il a des compétences linguistiques qui sont des compétences d'ouf, quoi. Et donc, quand on est allé avec mon père, le fait qu'il parle chinois de temps en temps dans le film, Et entre nous, mon père était la seule personne qui pouvait comprendre, parce que le reste de nous, on parlait vietnamien, mais pas les chinois. Je me sentais... Ça m'a trop touchée, en fait. À chaque fois qu'il faisait une blague en chinois, j'ai détourné le regard, j'ai regardé mon père, en disant, oh, qu'est-ce qu'il comprend, c'est tellement... Ouais, c'était... non, j'étais hyper émue par ça.
Moi, ça me touche beaucoup, c'est ce que tu dis, parce que dans le film... Moi, j'ai regardé le film aussi, hein. Je l'ai regardé illégalement sur les réseaux.
Parce que, voilà, bravo, et je pouvais pas on essaie de déconstruire les clichés.
Je pouvais pas attendre le 7 novembre, parce qu'il sort le 7 novembre en France. L'une des raisons pour lesquelles je trouve que ce film est chouette, et que d'ailleurs pour aussi Fresh Off the Boat, la série sur ABC aussi, ça vaut, c'est que les personnages principaux n'ont pas d'accent. Et c'est-à-dire qu'ils sont...
Ils sont américains.
Ils sont américains. C'est-à-dire que dans Crazy Rich Asians, ils n'ont pas d'accent. Dans Fresh Off the Boat, ils ont un petit accent.
Les parents ont un accent.
Voilà. Parce qu'ils sont immigrés. Ouais. Voilà. Mais sinon, les enfants n'ont pas d'accent. Et je trouve que ça, c'est déjà un non-stéréotype, parce que la plupart des personnes asiatiques que tu vois dans des rôles stéréotypés, ils ont des accents. C'est-à-dire que l'accent fait partie du rôle. Et d'ailleurs, je trouve que ça va être intéressant de voir comment Warner Bros. A traduit le film en français.
Mal doublé, surtout.
Mal doublé, puisque déjà, le livre s'appelle... Le livre Crazy Rich Asians a été traduit Singapour Millionnaire en français.
Ah,
ce qui est très différent. Enfin, pour moi, c'est très différent, puisque dans Crazy Rich Asians, tu n'as pas de territorialité. Ce sont des Américains qui vont à Singapour. Voilà. Bon, évidemment, Singapour fait partie de l'histoire. Mais quand tu traduis le titre de ça, Singapour Millionnaire, le récit se passe uniquement à Singapour, pour moi. C'est-à-dire que tu achètes un livre qui s'appelle Singapour Millionnaire, tu t'attends à ce qu'on parle de gens singapouriens.
Ouais. Alors que la protagoniste du film
est américaine.
Chinese-American, Rachel Chu.
Ils ont, c'est très important, les États-Unis dans ce film. C'est-à-dire que tout ce qui est Asian-American, tu le contrastes avec tout ce qui est authentique Chinese, c'est-à-dire les traditions des Chinois à Singapour.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'on fait souvent l'analogie entre ce film, l'impact social de ce film, et celui de Black Panther la même année, puisque effectivement, c'est la première fois qu'on voyait un casting entièrement noir de gens qui sont à la fois les gentils, les méchants, les héros, les personnages secondaires. Et c'est ce que ça a provoqué. Effectivement, on a vu des familles noires aller voir ce film-là, alors que c'est un film de super-héros, donc c'est un genre qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qu'il y avait cette idée de la représentation qui a énormément plu à des populations qui sont habituellement sous-représentés, même si les Noirs sont mieux représentés dans le cinéma américain que les Asiatiques.
Je sais pas si c'est... Mais je pense qu'ils sont plus représentés, mais mieux. Mais je crois que...
Mieux dans le sens où dans la quantité, il y a quand même plus
d'options. Oui, dans la quantité, c'est-à-dire bien sûr. Mais je crois que quand on a parlé un discours de Black Panther, c'était le fait de voir des héros.
Des héros noirs. Exactement.
Ouais.
Mais il y avait quand même un cinéma noir. C'est-à-dire qu'il y avait un cinéma noir qui existait, il y a BET, il y a une représentation qui existe, qui n'existe pas nécessairement pour les personnes asiatiques.
Bien sûr.
Je ne me trompe pas, BET, c'est une chaîne historiquement noire, etc. Et malgré tout, ce que tu disais dans ta présentation du film, c'est que tout ce cliché des Asiatiques riches, ça te gênait un petit peu, parce que c'est un cliché qui est assez récurrent, qui d'ailleurs en France, c'est ce que tu disais ou j'ai mal compris?
C'était ça, je crois.
Parce que tu fronces les sourcils, c'est pour ça que je me suis arrêtée.
Je crois que c'était deux choses en même temps. Donc il y a tout à fait ce stéréotype qui doit être déconstruit dans les Asiatiques qui sont riches. Et ce qui est bien aux États-Unis, c'est que vu qu'on a des statistiques raciales, ethniques, on peut désagréger les données concernant les Asiatiques. Donc on peut voir très bien que les Chinois et les Japonais sont beaucoup plus riches que... par exemple, les Bhoutanais ou les Cambodgiens ou même les Vietnamiens. Genre, on peut mesurer tout ça. Et donc, ça, c'est tout à fait un cliché qui n'est pas tout à fait précis, en fait. Parce que... Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que juste voir des gens qui sont trop riches, ça m'agace. Genre, il faut
de manière
prendre
générale,
leurs richesses, il faut les redistribuer.
C'est ton côté communiste, Robin des Bois.
Moi aussi, je trouve que c'est compliqué d'avoir ce film dans un contexte où on essaie de déconstruire, notamment dans les dernières campagnes qui ont été faites pour sensibiliser les gens à l'insécurité qui touche les Asiatiques, que les Chinois ne sont pas tous des personnes riches, ils n'ont pas d'argent sur eux, etc. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a dit et redit pour déconstruire ça.
C'est en France, parce qu'il y a beaucoup d'agressions de personnes d'origine asiatique, parce qu'on d'origine chinoise notamment, parce qu'on pense qu'elles se promènent avec beaucoup d'argent liquide.
Absolument, donc ça c'est vraiment un travail que font les associations sur le terrain.
Ouais.
Mais en même temps, moi j'aimerais qu'on parle de cette... Enfin, il y a un auteur vietnamien qui s'appelle Viet Thanh Nguyen, il est vietnamien-américain, pardon, et qui parle de cette... il appelle ça la plénitude narrative. Ouais. C'est-à-dire que... Et ça, je trouve ça très intéressant dans ce cadre-là, parce que c'est une comédie romantique, et donc les codes de la comédie romantique fonctionnent bien lorsque c'est glamour. Donc, tu vois, le fait que Crazy Rich Asians soient des Asiatiques riches, c'est pas parce qu'ils sont Asiatiques. En fait, c'est parce que c'est une comédie romantique. Donc, c'est comme si tu prenais, par exemple, Pretty Woman.
Ouais.
Et
tu peux répéter ce que tu as dit. Je ne sais pas si j'ai bien compris.
Non, en fait, je voulais juste dire
c'est
que...
C'est pas parce qu'ils sont riches. Pardon,
non, je disais que dans Crazy Rich Asians, le fait que les personnes ont de l'argent, ça participe au code de glamour qui existe dans les comédies romantiques. C'est pas parce qu'ils sont asiatiques qu'ils sont forcément riches, mais c'est parce que en fait c'est une histoire d'amour, de glamour. C'est-à-dire que c'est comme si tu prends un film comme Pretty Woman avec Richard Gere et Julia Roberts et que tu t'imaginais que toutes les femmes étaient Julia Roberts et que tous les hommes étaient Richard Gere. C'est pas le cas parce que tu sais que c'est une histoire sur une personne, une travailleuse du sexe dans un contexte hollywoodien avec un millionnaire. Et donc ce que dit Viet Thanh Nguyen sur la plénitude narrative, c'est qu'en fait il y a tellement peu de films et tellement peu de productions qui mettent des Asiatiques au centre de leur récit, que lorsqu'il y en a une, on a tout plein d'attentes sur cette production. C'est que là, on se dit, oui, mais c'est pas représentatif, des Asiatiques, on n'est pas tous riches. Effectivement, on n'est pas du tout tous riches. Ouais. Mais le fait que d'attendre de ça qui nous représente, c'est
en fait,
un souci.
Un seul film ne peut pas répondre à toutes les attentes en termes de représentation. C'est qu'en fait, l'offre qui permet de représenter les personnes d'origine asiatique est tellement rare qu'on veut que la représentation soit parfaite, à la fois réaliste et divertissante, pas cliché. Enfin, et c'est très difficile en fait. Le problème, c'est pas ce film-là, c'est le fait de l'absence de diversité de films sur le marché. Parce que quand il y aura 10-15 films sur des personnes d'origine asiatique, eh ben, toutes les représentations existeront. Il y aura des films d'auteurs, des films communistes,
des films de genre,
qui satisferont Emmy, ou les gens, les riches, donneront leur argent aux pauvres.
Parce qu'il y a eu énormément de critiques de ce film on a critiqué par exemple le choix de l'homme asiatique qui joue le rôle principal parce qu'il serait pas assez asiatique, puisque c'est un homme qui est eurasien. Enfin, nous on dit eurasien, mais en fait en anglais on dit mixed race, donc ça veut dire qu'il est blanc, son père est blanc et sa mère est d'origine malaisienne. Et du coup, c'est un peu du eurasien washing, c'est-à-dire que il est beau, il est asiatique, mais il est aussi il a tous les codes de l'homme blanc, c'est-à-dire que
en fait c'est l'idée, c'est que la critique qui a été faite, c'est qu'on a choisi un homme qui était d'origine asiatique mais qui était métissé, ce qui fait que physiquement il ressemble plus à un blanc qu'à un asiatique dont les deux parents seraient asiatiques. Et d'une certaine manière, la forme de beauté qui est valorisée, c'est une beauté asiatique mais pas trop asiatique. Et donc c'est un peu comme quand on fait la promotion chez d'autres groupes ethniques comme chez les noirs, des noirs qui ont la peau la plus claire, qui ont les cheveux les plus lisses. C'est comme si on pouvait accepter les Asiatiques, mais que dans une certaine limite d'asiatie... Je ne sais pas comment on dirait pour blanchité. Comment tu dirais pour les Asiatiques ?
Asiatude, comme dirait Christelle Pécou.
Voilà, en tout cas, c'est comme s'il y avait une limite et qu'au-delà, qu'on ne pouvait pas promouvoir un homme qui serait asiatique de ses deux parents comme étant un homme qui pourrait être aussi très très beau et qui pourrait aussi plaire à des femmes, y compris non asiatiques. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as observé et qui t'a dérangé ou pas du tout?
J'ai observé ça, mais lui, il n'était pas le seul personnage qui était métisse.
Il y avait aussi la fille qui s'est mariée. Aran Intali, là, qui s'appelle.
S'est mariée, c'était quoi la fille qui s'est mariée dans le film? Je ne me souviens plus des noms de. Des personnages, désolée.
Il y a aussi l'actrice Sonuya Mizuno qui est d'origine japonaise et britannique et qui aussi joue un rôle. Mais toi, tu dis dans ta tribune, je vais reprendre tes termes, tu dis, je mettais des lunettes de soleil pour couvrir mes yeux asiatiques et je caressais mon nez de haut en bas. On m'avait dit que j'aurais un nez plus blanc en faisant cela. Est-ce que du coup, ça résonne en toi ce whitewashing? Enfin, parce que c'est pas un whitewashing, c'est un.
C'est du colorisme, en fait, ouais. D'une certaine manière. Après, c'est vrai que là, il n'y a pas une question de couleur spécifique, mais c'est vraiment l'idée de dire que ce qui est en haut de l'échelle de valeur esthétique, c'est le blanc, et que tout ce qui s'en rapproche, en fait, est beau. Et donc, y compris chez les minorités, on va promouvoir celle qui se rapproche le plus du standard esthétique blanc, donc avec un nez plus fin pour les noirs et les asiatiques, une peau plus claire, des yeux moins en amande, etc., etc. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais étant jeune ou
Maintenant, avec du temps, maintenant que je peux voir toutes les forces qui ont forgé, qui ont façonné mon enfance, pour moi, c'est très simple, en fait. Mes parents, par exemple, ma mère, elle est née en 1950 au Vietnam. Donc, ma mère, c'était un sujet colonial. Et elle était colonisée par les Français. Et quand j'étais petite, dans ma famille, c'était clair que la façon dont on parlait aux Blancs, la façon dont on parlait des Blancs, en termes de leur intelligence, de leur beauté, de tout, en fait.
Leur classe sociale.
Ouais, bien sûr qu'ils étaient supérieurs. Mais ma mère, elle a intériorisé ça. C'est normal que je suis l'héritière. C'est ça.
Bien sûr.
Ouais, de ça en fait.
Et parce que je pense que, excuse-moi de t'interrompre, mais ouais. Au-delà de ta mère, je pense qu'il suffit de regarder les unes de magazines féminins ou la télévision, même en n'ayant pas été directement colonisée, pour penser que ce qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus blanc en fait.
Ouais, bien sûr. Je m'en souviens. Il y a assez longtemps, il y a peut-être 5 ou 6 ans, c'était vraiment avant ma prise de conscience raciale. C'était vraiment avant de lire sur le sujet. Mais juste parce que pour moi, c'était une évidence. Et moi, j'avais aussi cette idée que plus on est blanc, plus on est beau. Dans ma famille vietnamienne, par exemple, le meilleur compliment que tu peux avoir, c'est « Ah, mais t'as l'air d'être Lai ». Donc Lai, ça s'écrit L-A-I, ça veut dire « métisse ». Mais ça fait référence à l'idée d'être moitié blanc ou blanche, en fait.
C'est un compliment.
C'est un compliment d'ouf, en fait. Et quand tu peux white passer, en tant que... Je sais, j'ai des cousines qui ont des cheveux blondes maintenant, qui ont coloré leurs cheveux. Et elles vont me dire, mais tu sais que... Elles vont jamais utiliser des termes white passer, j'ai white passer. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que je suis asiatique.
Et elles ont l'air satisfaites.
Ils pensent que je suis blanche. Et c'est énormément triste. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment déconstruire. Mais donc, quand j'étais petite, ça, c'est une évidence. La façon dont on parlait de la beauté dans ma famille, pour tout le monde, c'était clair que... Et donc, ma mère, par exemple, quand je parlais de l'acte de caresser mon nez, en fait c'était ma mère qui m'a dit de dire ça. Elle m'a dit, mais tu vois, en anglais, je sais pas du tout comment ça se dit en français, mais on dit que les gens d'Occident, les blancs, ont des nez qui they have more pronounced nasal bridges. Je sais pas comment on dit ça.
Donc c'est plus haut, quoi, en fait, on va dire.
Ils ont l'arche du nez plus prononcée, quoi.
Ouais. Alors que les Asiatiques, non. Et donc je l'ai caressé.
Les Noirs non plus.
Mon nez pour faire en sorte que mon nez soit plus semblable à un nez blanc.
Et est-ce que tu penses que le fait que Constance Wu, qui est donc tout à fait 100% asiatique, qui est donc la protagoniste de Crazy Rich Asians, et que le film en général va changer les choses pour ces filles à qui on disait pour être plus belle ressemble à quelqu'un d'autre. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui une femme comme elle soit en haut de l'affiche dans un film où la femme est belle, c'est-à-dire que elle c'est une princesse dans ce film, elle a une robe de princesse, elle a un rôle de princesse, elle celle qui va se marier, enfin en tout cas qui joue le rôle de celle qu'on désire.
Ouais.
Ça peut pas changer des choses pour nous, pour nos enfants, en ce que notre regard sur nous-mêmes va changer.
J'espère bien que ça va changer les choses pour les gamines d'aujourd'hui. Moi, quand je pense à... Parce que je ne suis pas aussi dans ma tribune. Quand j'étais petite, à un moment donné, j'étais obsédée par un acteur qui s'appelait... Joshua Jackson, qui a joué dans les films Mighty Ducks et Dawson's Creek. J'étais mais tellement obsédée, vous ne pouvez pas imaginer.
Moi, j'aime beaucoup Joshua Jackson. Personnellement,
et
j'aime beaucoup.
Et en fait, à un moment donné, ma logique était pour le rencontrer un jour, il faut que je devienne actrice. Ce sera le seul moyen. J'avais 10 ans. Ça, c'était ma logique à 10 ans. Et donc, vraiment, je voulais devenir actrice. J'avais ce rêve, obsession. En plus, j'étais obsédée par les séries de télévision. Et donc, je me disais, OK, donc pour être actrice, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, il faut que je puisse pleurer. How do you say to cry on command? J'ai oublié.
Ah, pleurer sur commande.
Ouais, pleurer sur commande. Et donc, devant le miroir, dans la chambre de mes parents, j'essayais de pleurer. Genre, pensez quelque chose de triste. Mais en plus de ça, je me disais, mais le fait que je sois asiatique, c'est un problème, en fait. Parce qu'il n'y a pas de gens qui me ressemblent. Sur quand j'allume la télé, quand je vais voir des films. Et donc je me demandais à 10 ans, à 11 ans, est-ce que je peux cacher genre mes traits asiatiques en mettant des lunettes de soleil? Ouais, c'est ridicule.
Mais si tu pleures avec les lunettes de soleil, ça risque de pas se voir. C'est ça le problème.
Mais je sais pas si vous avez j'ai aussi noté ça dans ma tribune. Ce qui est incroyable, qu'aujourd'hui, en 2018, je crois que c'était il y a quelques ans avant la réalisation du film, on voulait rendre le personnage de Rachel Chu, on voulait la rendre en blanche. Et ça m'a étonnée, parce que en fait, ses origines chinoises sont tellement fondamentales dans son personnage, en fait. Pour ce personnage dans le film, le fait qu'elle soit Asian American, d'origine chinoise, c'est fondamental. Et même en 2014, quand ils étaient en train d'avoir ces conversations, on a dit on aimerait bien rendre ce personnage. On aimerait bien qu'elle soit blanche.
On va terminer ce podcast là avec cette belle conclusion. Enfin, non. On l'a échappé belle, mais en tout cas,
je pense que c'est. En tout cas, ça montre qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, qu'il n'y aurait peut-être pas eu 10 ans auparavant. Peut-être qu'on aurait eu droit à un personnage blanc au lieu de cette femme qui est américaine d'origine chinoise. Donc, je pense qu'on l'a échappé belle.
Donc, si vous aussi vous attendez beaucoup de Crazy Rich Asians, si vous l'avez vu, vous avez été bluffé ou déçu, dites-le nous sur notre mail kiftaraspodcast@gmail.com ou sur vos réseaux avec le hashtag kiftaras.
Et on a aussi un compte Twitter qui est @kiftaras. On reçoit bien vos mails, ça prend un petit peu de temps, on vous répond, ne vous inquiétez pas, on vous répond aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous dire si vous avez aimé, vous pouvez aussi nous dire si vous n'avez pas aimé, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez envie aussi qu'on aborde certains sujets, si vous voulez témoigner, on est vraiment ouverte à ça. Merci beaucoup Amy Hong pour ta présence.
Merci à vous.
Un vrai plaisir.
Merci à vous.
Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.
À bientôt.
Ciao. Merci.
Binge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.